Bonsoir à chacun, à chacune. Alors non seulement Dieu nous a sauvés, et en plus, il veut nous utiliser. Vous ne sentez pas comme un sérieux privilège qui est le nôtre ? Dieu nous a sauvés, c'est quelque chose de prodigieux, nous le réaliserons un jour, la grâce que c'est d'avoir été sauvés. Mais en plus, le temps qu'il nous reste à vivre, Dieu veut nous utiliser. Par contre, Dieu ne nous utilise pas n'importe comment. Vous savez que nous avons entrepris un sujet qui est très, très, très sérieux. À savoir, justement, Jérôme l'a introduit dans les champs, même s'il n'était pas là, je crois, mardi dernier, vous n'étiez pas, justement. Et cette affaire où Dieu veut manifester sa vie au travers de l'Église. Quand vous lisez les évangiles, l'œuvre de Dieu s'est faite par Jésus-Christ. Quand vous lisez les quatre évangiles, l'œuvre de Dieu se fait par le ministère de Jésus. Dès que vous lisez le livre des Actes, l'œuvre de Dieu se fait par les chrétiens, à partir du baptême du Saint-Esprit. Et je voudrais que nous prenions en considération des choses sérieuses. Il y a de la joie à se retrouver ensemble. Est-ce que vous êtes heureux de retrouver vos frères et sœurs ? Est-ce que vous êtes heureux, vous regardez autour de vous ? Tiens, oui, ça me fait plaisir, j'ai des frères, j'ai des sœurs. C'est une bénédiction d'avoir des frères et sœurs. N'oubliez pas qu'il y a plein d'endroits, même en France, où des chrétiens se retrouvent seuls dans certains villages. Donc c'est une grâce de se retrouver dans une communauté où on peut être des centaines à se retrouver, à pouvoir ensemble, comme on le fait ce soir, partager la parole de Dieu. Mais voilà, Dieu ne fait pas les choses n'importe comment. Dieu fait les choses d'une certaine façon. Il ne les fait pas d'une manière religieuse, d'une manière mystique, il les fait d'une manière pratique, concrète. Alors, le verset qui nous sert de base pour aller dans cette étude que nous partagerons à plusieurs reprises, avec des parenthèses certainement, vous savez, c'est ce texte qui m'a beaucoup interpellé pendant mes congés, juste un peu avant, quand Jésus dit qu'il honorera, que si quelqu'un le suit, que si quelqu'un le sert, il l'honorera. Vous connaissez ce texte ? Vous vous rappelez où c'était ? Est-ce que vous rappelez où c'était les stagiaires ? Non, ce n'est pas dans Luc, c'est dans Jean. Tu es renvoyé, Michael. Tu cherches une autre église. Jean chapitre 12. Voilà, c'est un peu costaud, la formation ici, vous le savez. Dans Jean au chapitre 12, il y a de bonnes églises, ne t'inquiète pas. Jean chapitre 12, on va lire le verset 23. C'est sérieux. Bon, c'était une boutade, je pense qu'il va encore rester quelques heures. Jean chapitre 12, verset 23. Le Seigneur sait exactement ce qu'il doit faire. Vous croyez que Dieu sait comment il doit faire pour bénir l'Église ? Vous croyez que Dieu sait ce qu'il a prévu d'avance ? Oui, Dieu sait. Dieu sait. Vous vous rappelez quand Samuel y pleurait ? Quand Samuel y pleurait parce que le roi Saül était rejeté. Est-ce que c'est normal de pleurer lorsque, entre guillemets, le peuple de Dieu est rejeté ? Ben oui, il y a de quoi pleurer. Et Dieu, à un moment donné, il lui dit, écoute à Samuel, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. J'ai trouvé celui qui sera le roi. Qui remplacera Saül. Dieu, il a tout prévu, mais il faut que ces hommes-là soient ce grain de blé dont on va parler. Jean chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Regardez bien. « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ça fait allusion à la loi de la multiplication. « Celui qui aime sa vie, la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Alors quelqu'un peut dire d'une manière très 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 rapide, « Mais moi je suis Dieu, je vais à l'église, je le sers, point. » Non, 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 non. C'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on pense. Servir Dieu, honorer Dieu, obéir à Dieu, c'est quelque chose de profond. Je vous ai fait allusion à ce verset que le Seigneur m'a conduit à lire lorsque je soupirais après un moment difficile. Je dis, Seigneur, mais manifeste ta vie, manifeste ta vie. On peut à des moments donnés, en boucle, répéter certaines choses au Seigneur parce qu'on en a besoin. Ça vous est déjà arrivé de dire au Seigneur, mais voilà, on a besoin, notre cœur souffre et on a besoin d'exprimer certaines choses. Ça fait un petit peu rabâcher, mais ce n'est pas du rabâchage, c'est vraiment le cœur qui s'exprime devant Dieu. Ce n'est pas des vaines redites, on en a besoin. Et je vous parlais de ce moment difficile, une nuit je ne dormais pas et je disais, Seigneur, mais manifeste ta vie, manifeste ta vie, manifeste ta vie. Et j'ai lu dans les Corinthiens, j'ai ouvert ma Bible, comme on le fait, vous savez, parfois, j'ouvre ma Bible, 2 Corinthiens, je tombe au chapitre 4, quand il est dit qu'il faut porter toujours dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée. Et il le répète à trois reprises, combien nous avons besoin de mourir à nous-mêmes. Alors c'est sûr que c'est un sujet tabou. Non, les gens sont tristes, les gens sont malheureux, ne parlons pas de mort à nous-mêmes dans les églises. Et pourtant, c'est la loi de la vie, ça passe par la mort. Christ est mort, nous aussi, nous devons mourir à nous-mêmes si nous voulons connaître cette vie de résurrection qui se manifeste, qui ne manifestera dans l'Église. C'est un sujet sérieux. Vous vous rendez compte, en plus, c'est lié à la multiplication, à la loi de la multiplication. Qui c'est qui aimerait voir l'œuvre de Dieu multipliée? Alors, soyons, qui c'est qui aimerait voir l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est biblique, la loi de la multiplication? Oui, c'est pas moi qui l'enseigne, c'est Jésus qui enseigne qu'un grain de blé, lorsqu'il meurt, eh bien, un grain emporte 60, 30 ou 100. C'est une loi, elle est biblique. Elle peut se manifester lorsque Dieu trouve des hommes qui vont renoncer à eux-mêmes, qui vont dire « ma vie ne m'appartient pas ». Comme je l'ai dit l'autre jour, je résume un peu, nous, on s'occupe que du péché, la mort au péché, la délivrance du péché. Voilà. Après le reste, c'est pas grave, c'est pas important. Mais la Bible nous demande de renoncer à nous-mêmes, car que je sache, un grain de blé, ça n'a rien à voir avec l'image du péché, ça a à voir avec notre vie naturelle, qui elle aussi doit mourir pour que la vie spirituelle puisse à son tour se manifester. Alors on va prendre quelques exemples pour expliquer que c'est sérieux. C'est très sérieux. Dieu vous connaît. Dieu il sait où vous en êtes. Dieu il sait ce que vous pourriez faire pour lui. Vous ne le savez pas, ce matin, quand je priais pour cette réunion, bien sûr, et il y a un verset qui s'est imposé à mon esprit, c'est un homme de Dieu qui va dire à un autre jeune serviteur de Dieu, « Tu demandes une chose difficile. » Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est l'homme qui a dit à ce jeune serviteur de Dieu, « Tu demandes une chose difficile. » Vous savez qui c'est? C'est Élie qui a dit à Élisée qui était déterminé, à vouloir l'onction de Dieu. Car je ne crois pas que Dieu nous donne l'onction parce qu'on dit « Seigneur, donne-moi ton onction, voilà pour faire l'œuvre de Dieu ». Je pense que c'est un petit peu plus sérieux que ça. Élisée avait été choisi par Dieu. Vous rappelez quand il a été appelé? Vous connaissez cette affaire? On va lire juste son appel. Son appel, c'est dans 1 Roi au chapitre 18, si je me trompe, ou 19. 1 Roi chapitre 19. Chapitre 19, verset 19. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de labourer. Vous avez remarqué dans la Bible que tous les hommes qui sont appelés par Dieu, ils sont en train de travailler. Tous. Si vous m'en trouvez un qui n'est pas en train de travailler, signalez-le-moi, j'en reparlerai. 1 Roi chapitre 19, verset 19. C'est important parce que nous allons voir la détermination d'Élisée. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Vous voulez connaître la loi de la multiplication? Vous voulez honorer le Seigneur Jésus? Vous voulez avoir la joie de dire, comme on l'a chanté tout à l'heure, « Me voici, maître, prends-moi le moment où vous rendrez votre dernier souffle. » Eh bien, il y a une mort à soi-même. Il y a une véritable mort à soi-même. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de merveilleux. Le diable, avec ses ruses et ses méthodes, essaiera de nous faire croire que ça ne sert à rien, parce qu'on va tout perdre. C'est exactement l'inverse, on va tout gagner. 1 Roi, chapitre 19, verset 19. « Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. » Oui, c'était un laboureur. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Ça veut dire qu'il était dans une famille riche. Imaginez-vous si vous alliez dans une ferme qui a 12 tracteurs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs et fait cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Et le sacrifice que Élisée fait prouve qu'il en est vraiment fini avec son ancienne vie. Il avait pris la décision, il a même brûlé, vous voyez, même l'attelage. Il a tout brûlé, tout sacrifié. C'est un homme qui avait décidé d'offrir sa vie. La preuve, c'est que dans 2 Rois, au chapitre 4, si je ne me trompe, nous voyons quelque chose qui se présente. 2 Rois chapitre 2, il y a, vous savez, l'école biblique, ils sont nombreux à être à l'école de Dieu. Ils sont nombreux. Et pourtant, il n'y en a qu'un qui va se déterminer à suivre Élie jusqu'à se faire une expérience particulière. Deux Rois, chapitre 2. Ce sont des textes que je vous encourage à méditer. On va voir certains aspects pour comprendre qu'un homme de Dieu est un homme déterminé. Vous vous rappelez ce qu'on a vu dimanche matin ? Vous vous rappelez qu'on a vu de Daniel qui a été appelé par Dieu, homme, comment il a été appelé ? Homme bien-aimé. Ce matin encore, je lisais toutes les fois où Dieu parle à des chrétiens, il dit « Mais hypocrite que vous êtes !» Ça change quand même, non ? Et Dieu dit « Homme bien-aimé !» Et cet homme, si jeune, avait pris la résolution de ne pas se souiller avec les choses que le monde lui proposait. Là, c'est un peu la même chose. Élisée a été choisi, pourtant, vous voyez, c'était un laboureur. Est-ce que Dieu peut utiliser un laboureur ? Est-ce que c'est pas mieux que Dieu prenne des députés, des gens intelligents ? Qu'est-ce que Dieu utilise ? Oui, mais il y a une jeune fille qui est venue ici il n'y a pas longtemps, elle avait été dans une église, et ils avaient eu un débat avec la jeunesse, et il y avait un jeune qui avait dit, voilà, pour être pasteur, qu'est-ce qu'il faut ? Et le pasteur a dit, cette bêtise-là, si vous voulez être pasteur, il vous faut avoir bac plus 5. Hein ? Un peu, oui. Non, mais... Je pense que si on veut être serviteur de Dieu, il faut obéir à Jésus, être fidèle dans les petites choses. Point. Alors, lisons ce texte, lisons-le. N'oubliez pas qu'il prédétermine la disposition de cœur pour être rempli du Saint-Esprit. Deux Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie. » car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? Et il répondit, je le sais, disez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et Élisée passa, « Amen !» Amen. Voilà, ça fait combien ? Ça fait 14 versets. 14 versets que, si nous prenions la peine de méditer, de comprendre ce qui s'est passé dans le cœur de ce jeune homme qui voulait l'onction de Dieu, il la voulait. Lorsque nous parlons de mort à nous-mêmes, lorsque nous parlons de manifester la vie de Jésus-Christ, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, il est certain que ça passe par cette détermination. On en a parlé dimanche, la différence entre le désir et la détermination. Vous savez, il y a un monde entier. Vous avez vu les 50 fils des prophètes qui étaient là pour le mépriser. Vous avez vu même que Dieu a utilisé le prophète Élie pour le tester. Parce que Dieu peut mettre des gens pour nous tester. Reste ici, je te prie. Dieu va nous éprouver. Il y a des gens autour de nous, même des gens spirituels, que Dieu peut utiliser pour nous freiner, pour nous Dieu veut savoir si vraiment on veut cette vie de l'esprit. Est-ce que vraiment on est prêt à payer le prix? Vous avez vu que Élie va faire passer Élisée par 4 étapes. Commençons par la première. Ce soir, on va voir que la première. Je ne sais pas si les mardis suivants, on verra les autres. Mais commençons par la première étape. Alors, ça se passe où? Verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Gilgal, peut-être que ça ne vous dit rien à vous, mais c'est la première étape par laquelle Dieu veut que nous passions. Elle est incontournable. Bethel, c'est la maison de Dieu. Jéricho, c'est l'endroit où on va avoir des victoires. Est-ce que vous faites partie de ces chrétiens? Il y a peut-être 5 ans, 10 ans que vous êtes convertis et vous n'avez pas réussi encore à prendre certaines victoires. Moi, j'ai connu des chrétiens, ça faisait 10 ans qu'ils étaient baptisés. Ils n'avaient pas réussi à prendre la victoire sur le tabac. Alors, on n'est pas là pour leur casser, bien sûr, du sucre sur le dos et pour les décourager. Mais il manquait quelque chose. Est-ce que Dieu est un Dieu de délivrance? Est-ce que Dieu peut délivrer quelqu'un? Ben oui. Alors, on n'a pas jugé, et puis on n'est pas habilité pour juger. Justement, gardons-nous de juger. Mais je crois quand même que nous avons un Dieu qui est capable de délivrer. Vous le croyez? Un Dieu qui est capable de nous libérer lorsque nous nous traînons des casseroles. Moi, je suis persuadé que Dieu a le pouvoir de nous libérer. Nous avons là l'exemple d'un homme qui a reçu le manteau d'Élie. Vous avez vu, il était en train de labourer, on ne va pas voir tout le cursus d'Élisée. Mais enfin, ça nous prouve que cet homme devait certainement pas penser à la richesse de sa fortune parce qu'il était dans une ferme riche. Non, c'est un gars, je ne sais pas comment il se couchait le soir, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tous les cas, une chose est sûre, si Dieu a aiguillé Élie vers Élisée, je crois qu'il y avait 40 kilomètres là où il était, je pense que Dieu sait où se trouvent les jeunes hommes, les jeunes femmes qui seront trouvés par Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse se poursuivre. Gloire à Dieu. Moi, j'en suis convaincu de cette puissance de Dieu. Il le sait. Il le sait et que Dieu puisse nous conduire vraiment. Parce que quand vous voyez Élisée, bien sûr, Élisée, oui, voilà, il s'est passé ça. Mais il était déterminé. Il y a des gens, dès qu'il y a une épreuve, « Oh, ben si c'est ça, j'arrête. Si c'est ça, je ne fais plus rien. Moi, j'en ai marre. Voyez, un tel m'a déçu. » Vous ne croyez pas que rien que le peu qui est écrit là-dedans, il y avait de quoi être déçu. Tu sais que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête. Vous savez, les gens, des fois, ils font des réflexions, mais bêtes. Peut-être que ça ne vous arrive pas de rencontrer des gens qui font des réflexions bêtes. Mais laissez-moi vous dire, si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver, croyez-moi. Et on peut être influencé par les réflexions. Je pense que ce que les gens disent, c'est une chose. Ce que Dieu a à vous dire devrait vous impressionner. Et Élisée, il voulait ce baptême. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui serait déterminé à vouloir ce baptême de l'Esprit? Dire, Seigneur, avec ma vie, ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu dis que si quelqu'un te sert, si quelqu'un te suit, le Père l'honorera? Eh bien, enseigne-moi, Seigneur, réellement ce à quoi ça correspond de te suivre. Ce n'est pas aller à l'église, on en parlait ce matin avec les stagiaires, peut-être mais qui va rester. Il y a des gens qui vont à l'église, ils s'imaginent que parce qu'ils vont à l'église, Dieu est avec eux. Ils vont à l'église par superstition. Voilà, je vais à l'église, donc bon, j'ai ma Bible, je prie, je chante un bon cantique, je dois être avec le Seigneur, je prends le pain et le vin, ça doit me maintenir en communion avec Dieu. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est faire en sorte qu'une parole de Dieu me touche, que je... Vous voyez, quand on chante « Toi qui dispose de toutes choses », c'est celui-là qu'on a chanté, oui. Que l'instant qui passe serve à me rapprocher de toi, c'est pas de la mélodie, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Que cette soirée, même si ça dure qu'une heure, que ça serve à me rapprocher de toi, où j'en suis, qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Oui, je veux être déterminé. Gilgal, c'est là où l'opprobre a été roulé. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, quand ils ont passé combien de temps dans le désert? Ils ont passé 40 ans. À cause de leur incrédulité, ils ont tourné en rond, alors qu'ils auraient dû mettre 3 semaines à traverser, ils ont tourné 40 ans, à cause de leur désobéissance. 40 ans sont passés, et par le biais de Josué, ils sont rentrés dans le pays de Canaan. Et à Gilgal, ils ont été tous, qu'est-ce qu'ils ont été? Circoncis. Et vous savez, la circoncision, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la circoncision physique. Paul le dit dans les... Oh, il le dit aux Galates qui n'ont pas tout compris, il y en a qui mélangeaient la grâce et la loi, et il y en a qui disaient, oui, si tu veux être un bon chrétien, tu vas être circoncis. Et Paul dit, mais non, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Mais là, dans le cadre de l'Ancien Testament, ça avait sa raison. Et il fallait que les hommes passent tous par la circoncision. Ça veut dire couper tout autour, ça signifie vraiment qu'il y a une séparation, j'abandonne le monde, j'abandonne justement la chair, le désert, et je veux rentrer dans une vie nouvelle. Gilgal, c'est vraiment un abandon, j'abandonne les choses de la terre, je rentre dans une vie nouvelle. Et le fait que Élisée ait brûlé même l'attelage montre bien qu'il en avait terminé avec cette affaire, parce que là aussi, il a dû avoir des tentations. Tout n'est pas écrit, mais il y a quelqu'un qui dit, mais tu te rends compte que tu lâches la ferme de ton père avec tes 12 tracteurs, tu te rends pas compte. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Et Élisée était déterminé. Il y a souvent, on n'a pas pu aller jusqu'à Bethel. Oui, la maison de Bethel, c'est vraiment l'image de la communion. Quand vous prenez les textes sur Bethel, on voit qu'il s'est passé certaines choses entre des hommes et Dieu. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Jéricho, c'est une étape essentielle, des victoires qu'il faut prendre. Mais oui, je l'ai dit tout à l'heure, des chrétiens n'ont pas pris de victoire, des chrétiens n'ont pas cette communion parce qu'ils ont négligé l'affaire de Gilgal. Gilgal, c'est véritablement, je prends au sérieux cette coupure, j'en fais une affaire personnelle. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors on pourrait prendre plein d'exemples, on va le faire, quelques exemples en tous les cas, pour comprendre qu'il faut tout le temps régler le problème de l'iniquité. Un texte... Je vais dire au hasard non, parce que j'en ai plein sur mon cœur, Job 22. Alors, je vous encourage à aller noter ces textes, parce que c'est de cette façon-là, justement, que vous comprendrez ce que représente Gilgal. L'Église, c'est une chose, mais l'Église, c'est quoi par semaine? C'est quoi l'Église par semaine? Proportionnellement au nombre d'heures, c'est combien, d'après vous? Combien d'heures vous passez à l'Église dans la semaine? À peu près. 2, 4. Non, c'est fini, toi. Job, chapitre 22. On passe quoi? Quelques heures à l'église. La moitié d'une journée, maximum. Vous voyez, une journée à peu près. Vous voyez, il y a tout le reste quand même. Job, chapitre 22, verset 21. Regardez bien ces textes. Il y a une détermination. Et je sais, vraiment dans mon esprit, que certains parmi vous veulent être remplis du Saint-Esprit. Il doit y avoir une coupure. Il doit y avoir ce détachement. Gilgal, c'est vraiment, vraiment la première étape. Si vous regardez le cursus par lequel Élie fait passer Élisée, vous allez voir que ce n'est pas très logique. Ils vont d'un côté, ils reviennent, ils partent au Jourdain, puis ils reviennent au Jourdain. Vous allez voir, ce n'est pas cohérent. Mais spirituellement, c'est cohérent. Ça commence toujours par une alliance. Je vais parler de Josué, qui a sorti le peuple d'Égypte, qui a sorti le peuple du désert. Et chaque fois que Élisée avait besoin d'une direction, il allait à Gilgal et il cherchait la face de Dieu. Et Dieu lui montrait. Il y a une séparation avec le monde, une séparation avec le désert, qui nous permet vraiment d'avoir une communion avec Dieu. Regardez Job, chapitre 22. Verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Ça vous est déjà arrivé de la perdre la paix parce que vous étiez un tant soit peu détaché du Seigneur? Oui, moi oui. Je pense que je ne suis pas le seul. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Et regardez cette parole. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent,
ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras, il t'exaucera. Tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Vous voyez, à tes résolutions répondra le succès. Il y a une coupure. Gilgal, c'est vraiment l'image de la circoncision, c'est vraiment l'image de la séparation, c'est vraiment l'image de « je meurs au monde, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs ». On pourrait prendre des textes, mais il y en a en pagaille, on va en prendre un autre dans Timothée. On le prend souvent, mais en plus, il y a le sceau de Dieu derrière, à celui-ci. Il y a le sceau de Dieu. C'est infini les textes dans la Bible. On va en prendre quelques-uns, c'est certainement ce qu'on a besoin de partager ce soir pour comprendre que ce grain de blé qui va mourir, c'est une affaire sérieuse. Alors, 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Être rempli du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, fuit les passions de la jeunesse. Vous voyez, c'est exactement la même chose, dit d'une manière différente que l'ami de Job va le présenter, mais une chose est certaine, quelqu'un est chrétien, quelqu'un prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Et si nous voulons être un vase utile, comme Élisée est devenu, après la mort d'Élie, vraiment quelqu'un d'utile, comme c'est extraordinaire, en plus il a demandé une double portion. Est-ce qu'il a fait le double de miracle qu'Élie? Eh bien oui. Bon, nous, est-ce qu'il faut demander une double portion? Vous avez déjà vu les enfants? Donne-moi deux morceaux de gâteau, vous savez. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de deux gâteaux, deux morceaux. Il y a la plénitude. C'est mieux encore le Nouveau Testament. Ce n'est pas deux morceaux de gâteau, c'est tout le gâteau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la plénitude de Dieu? Vous savez, Dieu y voit. Bon, vous répondez pour te voir, ce n'est pas important, mais la question elle est quand même posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la plénitude de Dieu? Dieu y voit. Si vous répondez, vous dites oui, il pose des questions, ça nous agace. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la plénitude de Dieu? Dieu voit. Il voyait Élisée en train de labourer. Il vous voit en train d'écouter. Parce que est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous connaissions la plénitude de Dieu? Oui, c'est la volonté de Dieu. Eh bien, vous voyez, ça commence par ce fameux Gilgal. Il y a une étape, même si on vous dit, mais non, ne prends pas la tête. Vous rappelez quand Pharaon a dit à Moïse, bon, d'accord, tu sors, mais tu sacrifies en Égypte. Vous rappelez? Oui, c'est bon. Va-t'en, parce que ça commençait à presser quand même. Et il a dit, écoute, c'est bon, mais tu sacrifies en Égypte. Mais c'est vraiment la parole du diable. Écoute, c'est bon, tu sers Dieu, mais tu restes dans la mentalité du monde. C'est bon. C'est exactement ce que le diable essaie de nous faire croire. Écoute, tu sers Dieu, voilà, c'est bien, mais tu peux rester dans la mentalité du monde. On n'est pas des extraterrestres. Oui, bien sûr qu'il y a des choses de la vie. Et bien sûr qu'il y a toutes les activités de la vie. Mais mes frères et sœurs, je crois qu'il y a un état d'esprit, de sainteté, que l'on doit absolument développer si nous voulons que la maison de Dieu, Bethel, soit vraiment Bethel, la maison du Seigneur, si nous voulons que toutes nos Jérichos soient détruites, parce qu'il y en a des Jérichos, il y en a des forteresses dans la vie. Il n'y en a pas des forteresses là-dedans, il n'y en a pas des forteresses des fois. Paul parle des forteresses de nos pensées, qu'il faut les renverser. Donc, on prend un autre texte dans 1 Pierre. Il y en a peut-être dans tous les livres du Nouveau Testament et de l'Ancien. 1 Pierre, un texte fort. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. J'en ai marqué, je ne sais pas combien ce matin, cet après-midi, quand je préparais ma prédication. Si on les voit tous, vous n'êtes pas prêts de vous endormir. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, qui nous parle également de cette vie de victoire. On peut obtenir, regardez le premier verset. C'est quand même un drôle de verset. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné, qu'est-ce que vous avez dans votre Bible? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors, est-ce que vous le croyez, ça? Est-ce que vous le croyez? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors, comment? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, c'est au moyen de Jésus. Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Je ne sais pas ce que vous mettez là-dedans, mais je pense qu'on peut mettre beaucoup de choses. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Voilà. Voilà la vie de l'esprit, participer à la nature divine. Comment? En connaissant Jésus, mais aussi en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Au verset 5, ce qui nous est demandé, à cause de cela, donc de toutes ses promesses, de sa puissance, etc., de ses projets et de la sainteté, puisqu'il faut fuir la corruption, faites tous vos efforts. Alors, d'un côté, il y a des choses, il y a des efforts qui sont strictement inutiles. Par exemple, je fais souvent allusion en ce moment à ce verset de Zacharie chapitre 6, ou chapitre 4, quand il est dit « ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit ». Vous êtes d'accord? C'est le Saint-Esprit qui doit faire son œuvre. Alors on peut dire, oui, tu vas être baptisé du Saint-Esprit, Olivier, tu vas être baptisé du Saint-Esprit, etc. Soyons baptisés du Saint-Esprit. Bon, je pense qu'à la limite, ça aura plus le mérite de nous agacer qu'autre chose. Parce que la vie de l'Esprit, ce n'est pas nous qui la provoquons, c'est le Saint-Esprit qui la provoque. Par contre, dans ce chapitre, nous voyons qu'il y a quelque chose de très, très, très important qui correspond à la part de l'homme, c'est le chandelier tout en or. Et c'est là que nous nous mettons en responsabilité. Est-ce que je veux être cet homme, cette femme, cet homme de Dieu, cette femme de Dieu qui va être entièrement en or pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est biblique d'acheter de l'or? Est-ce que c'est écrit? Vous avez vu dans Job, jette l'or dans la poussière, c'est-à-dire que tout ce qui a nos yeux a de la valeur, il y a plein de choses pour nous, c'est très très important, mais le Seigneur dit, écoute, c'est ça, ce que tu considères comme de l'or, jette-le, et le Tout-Puissant sera ton or. Et quand le Seigneur Jésus dit à cette église, mais je te conseille d'acheter de l'or afin que tu deviennes riche, éprouvé par le feu, donc ça correspond aussi à du temps de qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'il nous faut absolument travailler l'intégrité et la sainteté. L'or dans la Bible, c'est tout le temps symbole d'intégrité. Alors, mes frères et sœurs, il y a des efforts à faire. Ces efforts-là, Élisée a commencé à les faire. Il a coupé tout autour. La circoncision, c'est ça que ça veut dire. Et l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Même si Dieu nous appelle. Est-ce que vous croyez que Dieu nous appelle à faire son œuvre? Est-ce qu'on se mouille en disant, oui, au travers des chrétiens, quels qu'ils soient, quelle que soit la dénomination d'ailleurs, à partir du moment où on obéit à la parole de Dieu, Dieu nous appelle à faire son œuvre. Est-ce que Dieu a appelé Moïse au buisson ardent? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu a appelé Moïse le jour? Bon, on est sûr. Vous savez ce qui s'est passé juste après? La prochaine histoire qui s'est passée? Moi, j'en suis tombé sur le derrière. Quelque chose que j'ai eu du mal à croire. On le lit ensemble. Dans le livre de l'Exode, bon, il y a tout ce fameux appel de Dieu sur Moïse. Et puis après, bon, il y a cette négociation parce qu'il ne veut pas parler. Donc Dieu accepte malgré tout que ce soit Aaron qui parle de sa part, etc. Bon, regardez-le vraiment. Vous comprendrez pourquoi la première étape de Gilgal est non négociable. Exode chapitre 4, verset 21. Lisez-le bien. En retournant, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Bon, c'est clair, Dieu prépare un peu le terrain, il explique ce qui devra vivre, Dieu nous donne quand même certains éléments pour savoir ce qu'il faut faire. Regardez le verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Vous avez bien lu? Ah, moi je vous promets, mais vraiment, quand j'ai lu ça, j'ai rien compris. Dieu l'appelle, Dieu l'a fait, j'allais dire mariner, mais enfin bon, Dieu l'a fait attendre pendant
40 ans pour le former, pour qu'il soit prêt. C'est quand même quelque chose, soyons sérieux. Dieu l'appelle dans des circonstances extraordinaires. Dieu lui montre ce qu'il va faire. Et dans la nuit où il s'en va, il veut le faire mourir. Et c'est sérieux, c'est écrit. Ça vous fait pas drôle, ça? Non, vous, ça vous choque pas? Franchement, ça vous choque pas? Moi, je l'ai lu, mais la première fois que j'ai lu, j'ai dit, c'est pas possible, il y a un problème. Vous vous rendez compte? L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Bon, il faut lire la suite un peu pour comprendre. Séphora, c'était le nom de son épouse, Séphora, ça veut dire petit moineau, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « Époux de sang à cause de la circoncision ». Et à partir de ce moment-là, Moïse s'est séparé de Séphora. Comme quoi, vous voyez, même dans un couple de serviteurs de Dieu, il peut y avoir des difficultés. Moi, cette histoire, elle m'a beaucoup interpellé. C'est écrit, c'est sérieux, ça tient en trois lignes. Mais je peux vous dire que si Dieu veut faire quelque chose, si grand soit-il, ça passe toujours par la circoncision. À tel point que Moïse a failli mourir cette nuit-là, parce qu'il l'avait négligé de circoncire ses enfants. Pourquoi ? Eh bien parce que sa femme ne voulait pas. Alors, là, on entre dans un grand, grand, grand débat, mais une chose est sérieuse, ça nous fait prendre conscience que cette mort à soi-même, cette fameuse étape de Gilgal, bien sûr, nous, on lit ça, c'est presque... On peut le lire au niveau historique. Vous voyez ce que je veux dire ? On lit les choses. Moi, quand je lis, c'est historique. Mais il ne faut pas que penser que c'est historique. C'est quelque chose de spirituel que nous aussi, nous devons réaliser et vivre. Et si nous voulons que le manteau du Saint-Esprit tombe sur l'église de Sainte-Agne, si nous voulons vraiment que le Saint-Esprit tombe sur chacune de nos vies, il va falloir que nous prenions au sérieux cette affaire de circoncision. Cette affaire de mourir au monde, pas de mourir au péché. Ça, j'espère que c'est réglé. Mais moi, je vous assure qu'en ce moment, c'est quelque chose qui me préoccupe, cette affaire de Gilgal, quand on voit que Moïse a failli mourir. Et sa femme, qui n'était pas bête, avait bien compris qu'il y avait un problème lié à ça. Et de suite, elle a pris un couteau et elle a circoncis ses fils parce que ça tournait mal. Et je crois que nous devons dire, mais Seigneur, tu veux faire ton œuvre et je veux pas me tromper. Qu'est-ce que c'est dont je dois me débarrasser, parce que chacun nous en sommes à un certain niveau. C'est pas à moi à vous dire, ben toi tu faut faire ça, et toi tu dois te débarrasser de ça. Moi je l'ai eu fait, je pense que c'est pas intelligent. Je pense que Dieu doit nous montrer à chacun ce que nous avons à faire. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Comme je l'ai dit dimanche, ça va être peut-être le problème j'en ai parlé de l'avarice, l'autre, Dieu va l'attaquer sur le problème de l'orgueil, l'autre va l'attaquer sur le problème de la jalousie, l'autre, il va falloir qu'il règle tel ou tel problème. Mais une chose est sûre, si on est honnête, le Seigneur va nous montrer le domaine sur lequel il faut absolument le régler. Ça peut être la paresse. Moi, combien de chrétiens ici m'ont dit, mais moi je suis un paresseux. Je reste devant mon Facebook jusqu'à 1h du matin, je n'arrive pas à faire mon culte. Mais si vous êtes sérieux, laissez-moi vous dire que Dieu va vous entreprendre sur ce sujet. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas droit à vous détendre. Moi, je pense que si la détente est saine, vraiment saine, il n'y a pas de problème. Mais si la détente, quelle qu'elle soit, vous empêche de vous tenir devant Dieu, Dieu va vous attraper là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou est-ce que la détente, c'est plus important que la communion avec le Seigneur? Si la détente, c'est plus important que la communion avec le Seigneur, c'est que bon, il y a des choses à revoir, c'est que vous n'avez certainement pas compris ce qu'était la communion avec Dieu. Parce que je me demande, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la communion avec le Seigneur? Est-ce que d'après vous, il y a quelque chose sur la terre de plaisant qui peut être meilleur que la communion avec le Seigneur? Est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples? Si c'est le cas, c'est qu'il y a besoin d'une victoire, eh bien Dieu va vous aider. Élisée, il était déterminé. On a pris des textes. Voyez, dans 1 Pierre, sa divine puissance nous a tout donné. Si vous méditez ces textes, vous dites, mais attends, mais à côté de quoi je suis en train de passer? Il y a des promesses, il y a des grandes promesses. Mais il faut fuir la corruption qui existe dans le monde. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On pourrait en prendre des dizaines, le psaume premier, on pourrait prendre quand Dieu a appelé Josué, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Est-ce que vous voulez réussir dans votre vie? Dans votre vie, pas que la vie chrétienne, mais est-ce que dans votre vie d'église, est-ce que vous voulez réussir? Est-ce que c'est un péché de vouloir réussir? Est-ce que c'est malsain de vouloir réussir? Mais bien sûr que non, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que Dieu a dit à qui? Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Si tu veux réintégrer l'église, il te faut me dire. Qui c'est? Non, c'est Gaius, là t'es viré pour de bon. Voilà, c'est pas évidemment, c'est Gaius. Voilà, tu peux y aller. Voilà. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que cette parole que Dieu a adressée à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, est-ce que Dieu peut l'adresser à chacun de vous? Mais oui, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que l'on soit des vainqueurs. On ne va pas être des vainqueurs parce qu'on va chanter en boucle que le faible dise je suis fort, que le faible dise je suis fort. Tout ça, c'est n'importe quoi. Il y a un exemple, vous l'avez dans la personne d'Élisée, malgré tous les collègues, tous les fils des prophètes, qui lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne sert à rien. » D'ailleurs, vous lirez la suite, vous verrez qu'ils n'étaient pas si spirituels que ça. Il y avait un grand décalage entre ce qu'ils vivaient et ce qu'on leur avait dit. Mais dans le cœur d'Élisée, qui avait des progrès à faire, il était déterminé. Vous vous rappelez le témoignage de Daniel? Il était déterminé. Ce matin, quand je priais, franchement, l'image, on en reparlera certainement dimanche, mais il y a l'image de Anne. Anne, quand elle s'est mise à se lever dans le temple, je vous assure que, entre guillemets, dans l'église, ça allait très, très mal. Si vous regardez le contexte dans lequel cette femme s'est levée, laissez-moi vous dire que ça craignait au niveau de l'apostasie en Israël à l'époque où Anne s'est levée. Et pourtant, cette femme, à un moment donné, pourtant elle allait à l'église tous les ans, elle était dans la souffrance, dans l'irritation, dans la mortification, dans tout ce que vous voudrez, elle souffrait, vraiment, elle pleurait, vraiment. À un moment, elle a dit, bon, ça suffit. Elle s'est levée, et vous savez ce qu'elle a fait cette femme, au travers de l'enfant qu'elle a enfanté. Vous savez ce qu'elle a fait. Parce qu'elle était déterminée. Et comme je l'ai dit dimanche, ça ne suffit pas le désir. Oh, j'aimerais que l'Église soit bénie. Et pourquoi on ne voit pas des miracles? Ça ne sert à rien, tout ça. Ça ne sert à rien. Mais rappelez-vous cette parole, et je termine. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Vous qui êtes venus, Dieu savait que vous viendriez ce soir. Écoutez cette parole. Vous l'avez entendue peut-être 150 fois, si vous venez ici depuis 2 ou 3 ans. Mais Dieu a dit à un homme un jour, « Que t'importent les autres, toi, suis-moi. » Et si vous ne reteniez que ça ce soir, laissez-moi vous dire que Dieu vous aura parlé. Que t'importe les autres, toi, suis-moi. Élisée n'a même pas écouté Élie, qui lui disait, mais reste là, je te prie. Vous vous rendez compte, il le testait, c'est un truc de fou, que Dieu peut utiliser notre formateur pour nous éprouver. Reste là. Non, je ne te laisserai pas. Et si dans notre cœur, il y a cette détermination, je veux que tu me montres déjà, Seigneur, où j'en suis, de Gilgal. Montre-moi, parce que je crois que Dieu est là pour nous aider. Est-ce que vous le croyez? Quelle que soit la sévérité de Dieu, moi je crois que Dieu peut être très sévère. J'en ai parlé dimanche, que Dieu s'adresse à un homme en lui disant « Homme bien-aimé bon, », c'est sûr que c'est l'idéal, mais quand Jésus, dans sa souveraineté, on ne peut pas en déduire autrement, traite quelqu'un d'hypocrite ou de race de vipère, je ne pense pas que c'est pour le démolir. C'est pour l'éclairer et pour l'aider à dire, c'est clair, je suis un hypocrite, j'ai deux langages, il faut que ça s'arrête, Seigneur, aide-moi. Vous croyez que Dieu va aider quelqu'un qui, une race de vipère, qui va dire, Seigneur, aide-moi à ne pas avoir une vie double? Est-ce que vous croyez que Dieu peut aider la personne? Est-ce que vous... Mais bien sûr, mais Dieu, vous le savez, si vous le connaissez, il est là pour nous aider. Et quand on prie, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut obtenir la grâce, la miséricorde et le secours. Et même si ça ne va pas dans votre vie, vous pouvez dire, Seigneur, ben moi ça ne va pas. J'ai du désir, mais je ne suis pas déterminé. J'ai un problème de paresse, il faut que je règle ce problème. Et bien commençons par ce problème. Ça dépend d'avoir un bon réveil, ou 2 ou 3, ou en acheter 5, 10, mettez-les tous en même temps, mettez-en dans toutes les pièces de l'appartement, mais je peux vous dire que Dieu vous aidera à régler le problème de la paresse, si vous le voulez. Je crois que nous avons un Dieu qui veut nous aider. Il nous aime, le Seigneur. Il a daigné dans sa souveraineté faire son œuvre avec les hommes et les femmes que nous sommes. Moi, ça me dépasse un peu. Dieu aurait pu utiliser des anges. Voilà. Dieu a décidé de faire son œuvre avec des hommes et des femmes. Comment est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, de tout temps, de tout temps. Dès que Dieu a créé l'homme, il lui faut un homme pour faire son œuvre. Demandez à Noé, est-ce que Dieu aurait pu envoyer l'arche, faire le déluge, bon, pour envoyer de l'eau, tout ça, en quantité, c'est pas un problème pour Dieu. Le problème, c'était pas d'envoyer le déluge. Le problème, c'est de trouver un Noé. Alors, on pourrait multiplier les exemples, alors, on en a pour la nuit entière. Il fallait un Noé. Quand Dieu avait un Noé, il pouvait envoyer le déluge. Quand Dieu trouve des hommes, il peut faire son œuvre. Qu'il en soit ainsi ce soir. Que Dieu trouve des hommes et des femmes qui ne vont pas se décourager, mais dire, écoute Seigneur, moi j'ai vraiment un problème. À Gilgal, déjà ça coince. Mais je veux de l'aide. Je veux de l'aide. Et Dieu, il va vous aider. Gloire à Dieu. Demandez-lui de l'aide. Si vous le connaissez, il ne peut pas faire autrement. Le Seigneur est de mon aide. Alors on va quand même lire ce verset, parce que je pense que c'est bien pour certains que vous le lisiez. Parce que ce n'est pas une parole du pasteur, c'est une parole du Seigneur. Hébreux chapitre 13, c'est bien de le lire, hein, parce que c'est quand même une promesse du Seigneur. Hébreux chapitre 13, verset 5. C'est très important de terminer cette réunion avec ce verset, pour quelqu'un en tous les cas qui a besoin de savoir que Dieu n'est pas là pour le juger, mais que Dieu est là pour l'aider. Hébreux chapitre 13, verset 5, ça commence avec une exhortation par rapport à l'amour de l'argent. Et puis il est dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Vous pouvez dire amen. Parce que si vous avez un problème, quel qu'il soit, le Seigneur va vous aider. Et moi, je veux voir cette affaire d'une manière intelligente, d'une manière constructive, d'une manière joyeuse. Le Seigneur, il va nous aider. Mais soyons déterminés, soyons déterminés. Il y a un baptême du Saint-Esprit, il y a un plan de Dieu. Oui, il y a des temps difficiles. Et croyez-moi, ça ne va pas faire en s'arrangeant. Mais croyez-moi aussi, parce que c'est biblique, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. On va fermer les yeux quelques instants. On va lui demander de l'aide. Vous êtes d'accord qu'on termine en demandant de l'aide? Non? Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta patience à notre égard et nous te bénissons pour tout l'enseignement que nous pouvons puiser dans ta parole. Si tu l'as fait avec Élisée, tu veux le faire avec chacun de tes enfants. Tu l'as promis que la promesse, elle était pour tous en aussi grand nombre que tu les appellerais. Alors nous le savons, que cette promesse de ce baptême de l'Esprit, elle est pour chacun de nous. Seigneur, tu vois la première étape? Seigneur, aide-nous à vraiment comprendre ce qu'est une circoncision spirituelle, ce qu'est véritablement la sainteté dans ta maison. Nous voulons aller de l'avant, amène-nous dans ces étapes afin de vivre cette loi de la multiplication, à savoir qu'un grain de blé doit mourir, pour pouvoir porter du fruit, et éclaire nos yeux afin que le diable arrête de nous aveugler par rapport à cette fausse notion de perte, car nous ne croyons que lorsque nous mourons en nous-mêmes, nous ne pouvons qu'entrer dans un nouveau royaume de bénédiction. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide les frères, aide-moi aussi, afin que tous ensemble, nous allions de l'avant et nous puissions nous stimuler, nous encourager les uns les autres pour aller de l'avant. Seigneur, éclaire-nous à chacun par rapport aux problèmes que nous devons régler pour être ces hommes de Dieu et ces femmes spirituelles. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.